au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour parce que c'est mieux qu'un seul bonjour. Alors je le dis d'emblée, si vous entendez un filtre dans ma voix, c'est vraiment le problème de la pollution qu'on a eu ce week-end. Certaines personnes comme moi sont sensibles plus que d'autres aux particules qu'il y avait dans l'air. Alors, moi, ça me bouchait le nez pendant un bout de temps. Puis là, c'est en train de boucher ma gorge, mais ça va revenir parce qu'on annonce que ça va s'améliorer. Donc, ces particules qui venaient des feux de forêt de l'ouest du pays. Puis on dirait qu'en vieillissant, ça m'affecte plus que d'habitude. Salut, Samuel Badel.
Salut, Denis Martin.
Oui, là, t'as une belle voix, toi. Je pense qu'on va changer de rôle, peut-être. Ça va bien, passez un bon week-end?
Ben oui, très bien, très bien.
Samuel qui va remplacer, donc, Mathieu Tessier, qui prend des vacances bien méritées. Alors, oui, justement, je vous parlais du temps qu'il fait. Eh bien, encore au chaud aujourd'hui. Et oui, notre ami Trécola, je l'appelle Dex, comme dans Humidex, est de retour dans le sud du Québec, en Ontario. Il est comme là, comme un espèce d'invité qui vient souper chez vous, puis qui part plus. Puis il est rendu 23 heures le soir, de nous, on voudrait faire la vaisselle, puis se coucher. Puis après ça. Alors donc, sud du Québec et l'Outaouais, sud de l'Ontario aussi, même presque toute la province d'Ontario, je devrais dire. Les maximums autour de 30 degrés, humidex autour de 35 degrés. Par endroit, il y a le risque d'un orage en fin de journée ou en soirée. Nord du Québec aussi, c'est chaud, Saguenay, avec des faibles probabilités de précipitations. Très chaud aussi, un ressenti à 36 en Abitibi, mais des risques d'un orage en après-midi. C'est un peu moins chaud dans l'est du pays. Et puis en Ontario, eux autres, ils ont de la pluie prévue plus pendant la nuit et ou demain matin. Chaud et humide, avec risque d'un orage en après-midi ou en soirée, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. Là aussi, le ressenti autour de 36. Ouf! Ouais, ben faut dire qu'on a quand même eu 40 là, pendant un bout de temps la semaine dernière, fait que ça, c'était un petit peu moins pire. Ben, moi, je suis toujours au genre, quand c'est 30 et plus, c'est chaud, peu importe le chiffre qu'on met après. Beaucoup moins chaud, passage nuageux, faible précipitation à Terre-Neuve et Labrador. Chaud et humide aussi au Manitoba, humidex de 32. Beaucoup moins chaud en Saskatchewan, mais ça va être beau. 22 degrés. Frais et pluvieux, imaginez en Calgary, 17 degrés. Passage nuageux à Edmonton, 20 degrés. Et c'est beau et chaud en Colombie-Britannique. Plaisant à Vancouver, 24, mais c'est plus chaud à l'intérieur des terres. Faible probabilité de précipitation. 28 juillet. On va parler du 28 juillet aujourd'hui. Eh bien, c'est en 1914. Il n'y a personne qui s'en rappelle ou qui est encore vivant pour s'en rappeler. Je pense pas, en tout cas très peu. 28 juillet marque le début de... Ben oui, la personne récent, 11 ans aujourd'hui. Oui, c'est un peu... la personne qui est née là, a 111 ans. Donc, il n'y a pas personne qui s'en rappelle. Mais c'était le début là, de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, un événement qui déclenche le conflit mondial qui durera 4 ans et coûtera des millions de vies. 1945, aux États-Unis, un bombardier B-25 s'écrase contre l'Empire State Building à New York, causant la mort de 14 personnes. Mon Dieu, des années plus tard, c'était les tours jumelles, qui montrent que les grandes villes sont très vulnérables quant aux attaques aériennes. Irlande du Nord, en 2005, l'armée républicaine irlandaise annonce la fin de sa campagne armée de 30 ans contre la domination britannique, causant un tournant significatif dans le processus de paix en Irlande du Nord. Et puis, 1935. Summertime, ben oui, c'est la sortie de l'album Porgy and Bess de George Gershwin, une œuvre marquante de la musique états-unienne qui combine le jazz, le blues et l'opéra. Cet album reste un classique connu pour ses chansons comme Summertime. En 2008, sortie du film Wall-E, c'est par les studios Pixar, un film d'animation qui est salué par son message écologique, sa profondeur émotionnelle et sa qualité visuelle, devenant un classique du moderne du cinéma d'animation. 1866, c'était l'anniversaire de naissance de Beatrix Potter, auteure et illustratrice britannique, célèbre pour ses livres pour enfants mettant en scène des animaux anthropomorphes, dont le plus célèbre est Pierre le Lapin. Et 1929, c'était la naissance de Jacqueline Kennedy Onassis, première dame des États-Unis de 1961 à 63. Elle est connue pour son élégance et son influence culturelle. Elle a marqué l'histoire américaine, ou l'histoire états-unienne par son style et son engagement culturel. Et puis, on va parler de décès marquants. 1741, décès d'Antonio Vivaldi, compositeur italien baroque, célèbre pour ses concertos, notamment les Quatre Saisons. 1984, décès de James Mason, acteur britannique connu pour ses rôles dans des films comme A Star Is Born et Lolita. Et puis, séjour d'indépendance du Pérou, 28 juillet, qui donc célèbre depuis 1921 son indépendance vis-à-vis l'Espagne. Alors, aujourd'hui, c'est donc le 28 juillet. C'est la 208e journée de l'année et il y en reste 157 avant le bye-bye. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer aujourd'hui. On a trois entrevues à l'émission aujourd'hui. Nous allons parler d'une vaste étude pour connaître la situation de dépendance ou de consommation des femmes vis-à-vis les femmes de la communauté, des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est une entrevue qu'on va faire avec Jorge. Mes feuilles collent ensemble. Hein. C'est vraiment humide dans le studio. J'ai de la misère à décoller mes pages. Voilà. C'est donc un projet de recherche qui est dirigé par la chaire de recherche TRADIS de l'UQAM, qui veut donc connaître les habitudes de consommation de substances chez les femmes de la diversité sexuelle et de genre. Jorge Flores Aranda va nous parler de ça. C'est lui le titulaire de cette chaire de recherche. On va aussi parler du greffier Stéphane Hébert qui a fait une randonnée à vélo Vancouver-Montréal pour sensibiliser les gens aux besoins des transfusions ou des transplantations ou des greffes. Il sera des nôtres donc pour en discuter. Et puis on va aussi recevoir François Bernier, qui, lui, a terminé une traversée de la France du nord au sud en 21 jours, en fauteuil roulant, poussé par des aides-soignants, pour ramasser de l'argent pour Défi pour la Sans Limite. Donc, on le reçoit aussi à l'émission. On s'en va en musique. Living my life in a slow hell. Different girl every night at the hotel. I ain't seen the sunshine in 3 damn days. Been fueling up on cocaine and whiskey. Wish I had a good girl to miss me. Lord, I wonder if I'll ever change my ways. I put your picture away. Sat down and cried a day. I can't look at you while I'm lying next to her. I called you last night in the hotel. Everyone knows, but they won't tell. But they're half-hearted smiles tell me something just ain't right.
Same, how have you been? since you've been gone, my world's been dark and gray. You reminded me of brighter days.
I hoped you would come and home to stay. I was headed to church.
I was off to drink you.
Donc, on écoutait la version anglaise, malheureusement, on s'est trompé et puis, bon, c'est un petit peu trop tard pour changer, mais c'était donc Clément Jacques avec la participation de Marie-Mé Picture. Je voulais vous parler donc justement de cette mauvaise qualité de l'air qui fait en sorte que pour certains d'entre nous, moi, ça m'affecte jusque dans la gorge. Et c'est vraiment fatigant quand on travaille et puis c'est sa voix qui fait en sorte qu'on puisse gagner sa vie. Et vraiment, ce genre de chaque fois qu'il y a ce genre de pollution dans l'air, c'est très difficile. Moi, ça m'affecte au niveau de ma voix, mais bon, j'espère que demain, ça sera de retour. Québec et Montréal devraient bientôt retrouver un air respirable, selon Environnement Canada. C'est tiré du Devoir ce matin. La mauvaise qualité de l'air continuait à sévir hier dans le sud du Québec sous l'effet de smog qui provenait des feux de forêt dans les prairies, au point d'inscrire Montréal et Québec au rang des villes les plus polluées au monde. La qualité de l'air s'est néanmoins améliorée au cours de la journée et devrait retourner dans un état normal vers le milieu de la semaine, a précisé Environnement Canada. Je pense que vendredi et samedi, Montréal était la ville la plus polluée au monde, ou presque dans le premier, autour du premier rang, ou peut-être troisième ou quatrième, mais en tout cas, c'était vraiment pas bon. Alors, la métropole hier, métropole québécoise, affichait un indice de qualité de l'air de 103 et se classait 10e hier parmi les villes les plus polluées du monde, derrière Kinshasa, qui est en première position, et Lahore en deuxième position. Selon le site eCare, qui surveille la qualité d'air à l'échelle internationale. La ville de Québec, qui n'est pas comptabilisée dans ce classement des grandes villes ou des métropoles, atteignait pour sa part un indice légèrement supérieur, 111. La circulation des vents en altitude et en surface a cependant contribué à améliorer lentement la qualité de l'air dans le sud du Québec, hier, a indiqué au Devoir Marie-Lou Payette, météorologue chez Environnement Canada. Vers 17 heures, l'agence fédérale indiquait d'ailleurs que le risque lié à la mauvaise qualité d'air était passé d'élevé à faible. Il faudrait attendre jusqu'au milieu de la semaine pour que Montréal et Québec retrouvent une véritable bouffée d'air frais. On attend un anticyclone autour de mercredi en provenance de l'Ontario qui va pousser des vents plus frais sur l'ensemble du Québec, de sorte que les feux de forêt des prairies auront un moins grand impact. On ajoute aussi que les panaches de fumée devraient alors se disperser vers les États-Unis. Bon, ils vont encore faire une plainte contre nous. Samedi, Environnement Canada avait diffusé un avertissement de mauvaise qualité d'air et de chaleur extrême. Elle avait alors invité la population à réduire le temps passé à l'extérieur ainsi que toute activité physique exténuante, surtout les groupes les plus vulnérables qui sont les enfants, les personnes âgées. Ça, c'est moi, bientôt. Hein, 65 l'année prochaine, les femmes enceintes ainsi que les individus atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires. Mme Payette a toutefois précisé que l'amélioration attendue dans les prochains jours pourrait être un compromise, advenant un changement inattendu du côté des incendies qui sévissent dans l'Ouest canadien. Il suffit que le vent décide de changer de direction et on pourrait se retrouver avec des qualités qui frôlent l'acceptable ou le mauvais. Et la Thaïlande et le Canada conviennent d'un cessez-le-feu inconditionnel. C'est dans la presse ce matin. La Thaïlande et le Cambodge ont convenu d'un cessez-le-feu inconditionnel à partir de minuit, a annoncé le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l'issue de pourparlers avec la Malaisie. Le Cambodge et la Thaïlande sont parvenus à un accord commun prévoyant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel qui prend effet à minuit le 28 juillet, a déclaré M. Anwar. Le premier ministre cambodgien a jugé que le cessez-le-feu inconditionnel conclu avec la Thaïlande offrait une chance de retour à la normale dans les relations bilatérales après 5 jours d'affrontement. Les solutions que le premier ministre malaisien Anwar vient d'annoncer poseront les conditions pour que les discussions bilatérales mènent de nouveau à des relations normales, a annoncé M. Hun, à l'issue de pourparlers menés en Malaisie. Le Canada et la Thaïlande continuent de s'accuser mutuellement. La Thaïlande et le Cambodge. Je sais pas pourquoi je parle du Canada, je suis mêlé un peu. La Thaïlande et le Cambodge continuent de s'accuser mutuellement d'entretenir les hostilités et chaque camp a remis en cause la sincérité de l'adversaire avant de s'asseoir à la table des négociations sous l'œil des États-Unis et de la Chine. Les deux royaumes s'opposent depuis des décennies sur le tracé de leurs frontières communes, définies au temps de l'Indochine française, mais rarement dans l'histoire moderne, un tel épisode de violence a secoué la région. Les échanges de tirs, notamment d'artillerie et les frappes aériennes, ont fait depuis jeudi au moins 35 morts et provoqué le déplacement d'au moins 200 000 personnes.
Les jours et les saisons. Couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison, comment on se maquille les yeux. Faites tes enfants, mais oublie pas mon nom. Des souvenirs d'avant, s'achèveraient. Je serai là pour de bon. serai là pour de bon. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étillent. Et le jour où il s'envolera, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas.
Oui, c'est moi qui fais l'annonce, j'avais oublié. C'était Ficelle, Mia Tiner, donc on vient d'entendre. Juste une autre petite nouvelle avant d'aller plus loin. Alors, face à la montée des eaux, 80 % des habitants de Tuvalu demandent un visa pour l'Australie. Ça vient de Radio-Canada.ca. Menacé par les changements climatiques, le petit archipel de Tuvalu dans l'océan Pacifique profitera d'un accord bilatéral inédit qui permettra à sa population entière de migrer en Australie. Près de 80 % de la population s'est déjà inscrite au tirage au sort par lequel le gouvernement australien attribuera ses visas. En vertu du traité de l'Union Falepili, signé en novembre 2023 entre ces deux États, 280 Tuvaluans pourront chaque année obtenir un visa climatique qui leur permettra de vivre et travailler en Australie de manière permanente. Ce programme a eu un grand succès. Selon le Haut Commissariat d'Australie, environ 8 500 personnes, sur les quelques 11 000 personnes que compte l'archipel, ont participé au tirage au sort qui a eu lieu le 18 juillet. Le ministère de l'Intérieur australien peut procéder à la sélection aléatoire des candidats depuis le 25 juillet. Cet archipel, composé de 9 atolls, est de plus en plus exposé à des phénomènes météorologiques violents. Il y a des inondations. Son territoire, qui dépasse rarement les 3 mètres d'altitude, est fortement menacé par le niveau de l'eau ou de la mer. On va en musique.
Qui cherchez l'étoile,
vous qui vivez un rêve,
vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre.
Laissez-moi vous suivre.
Vous qui venez vers d'autres vies, laissez-moi vivre le peu de la vie.
La joie d'être libre sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour.
écouter une chanson de la Star Academy, Ne partez pas sans moi.
Oui, oui, en fait, c'est une reprise de la chanson qui a rendu très célèbre Céline Dion, qui avait remporté l'Eurovision 1988. Je pense que j'ai la bonne date, comme ça, de mémoire. En tout cas, ça arrive des fois que ma mémoire fonctionne. Je vais juste revenir sur la nouvelle dont je vous parlais. Donc, 80 % des personnes qui habitent le petit archipel de Tuvalu, qui demandent donc des visas pour aller vivre en Australie, c'est ce qu'on appelle donc des réfugiés. On parle de réfugiés climatiques. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 200 millions de personnes pourraient être déplacées à cause des changements climatiques d'ici 2050. Cependant, tous les pays ne sont pas égaux face à cette menace, selon Laurent Lepage, professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Selon lui, les populations les plus privilégiées peuvent mieux s'adapter au changement climatique puisqu'elles disposent de ressources pour le faire. Les plus vulnérables, c'est eux qui vont se retrouver dans l'obligation de se déplacer. Yannick Aymon, professeur au département de géographie, abonde dans le même sens. Les habitants de Tuvalu sont parmi les premiers à être touchés par l'élévation du niveau de la mer. Ces archipels ne sont pas ceux qui génèrent la majorité des GES, mais c'est eux qui en subissent les conséquences. Et c'est un grand débat pour déterminer qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ce déséquilibre alimente depuis plusieurs années les débats sur la responsabilité climatique des États favorisés par rapport aux États défavorisés. Lors de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan en juin dernier, le premier ministre de Tuvalu, Feleti Teo, a appelé les États à adopter un traité international sur l'élévation du niveau de la mer, déclarant que la survie de son pays en dépend. Ah oui, des grands débats à avoir sur la question, parce qu'évidemment, c'est dans les États du Nord, avec beaucoup d'argent qui cause le plus grand nombre de GES, la plus grande quantité de GES, mais c'est les États défavorisés souvent qui en subissent les conséquences. Alors, comment gérer ça? Ben, ça fait partie de ces grands débats. Alors, après la pause, François Bernier, qui revient d'une traversée de la France du nord au sud, va nous parler de ce qu'il a fait en fauteuil roulant, hein, évidemment. Et on va aussi parler d'un nouveau projet de recherche de consommation des substances chez les femmes, de la diversité sexuelle et de genre. Et on va aussi parler de Stéphane Hébert, greffé, qui a fait la traversée à vélo Vancouver-Montréal.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Tu voudrais revenir en arrière, dormir dans le ventre de ta mère, refaire ta vie sans avoir peur, sans toutes tes conneries, tes erreurs. Mais tu te résignes sans y croire, en chantant tout ton désespoir sur une vieille mélodie, une suite d'accords défraîchis. Tu repenses au jour où tu croyais être aussi beau, être aussi vrai que ces poupées de paraffine, ces demi-dieux de magazine, perdus dans ton monde lointain, vivant seul au creux de ta main. T'as fait le deuil de tes rêveries, intrus dans ton propre pays. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Pour toi l'amour devient un jeu dès qu'un regard croise tes yeux. Usant de mille stratégies, tu gagnes à chaque fois la partie. Quand arrive la grande finale, tu les mords comme un animal et tu disparais dans la nuit jusqu'à ta prochaine lubie. Tu n'aimes pas voir des gens qui pleurent, ça réveille en toi la douleur de l'enfant devenu trop grand qui a appris
à s'armer jusqu'aux dents, paré à tout faire exploser pour une fois de plus nous prouver qu'il est un soldat solitaire, un vagabond au cœur de pierre. Toutes tes idoles sont déjà mortes et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache oublier que tu te sens lâche. À force de chérir le passé, on finit seul épuisé. Un jour il faut faire la paix avec ses peurs, avec ses regrets. Il faut apprendre à dompter la bête blessée qui sommeille en nous avant qu'elle détruise tout. Toutes tes idoles sont déjà mortes et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche.
Et c'était « Toutes tes idoles », une chanson de Pierre Lapointe.
Un exploit sportif pour briser l'isolement des adultes en situation de handicap. François Bernier a traversé la France du nord au sud en 21 jours. Il a terminé son périple le 21 juillet. Alors déjà que traverser la France du nord au sud, que c'est un beau défi, que ce soit même en auto ou qu'on le fasse en vélo ou à pied, mais François, lui, il le fait en fauteuil roulant. Il est avec nous en visioconférence. Bienvenue à Canalem, François.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. Alors, quel sentiment t'habite là après avoir réussi ce défi?
Écoute, je suis vraiment content que c'est fini parce que c'était vraiment pas facile.
Non, ça doit pas, hein?
Ouais. Non, mais on est fiers d'avoir réussi.
Oui. Ben, parle-nous un petit peu de toi, là. Dis-nous ce que tu peux ou ce que tu veux nous dire à propos de ta situation. Tu es en fauteuil roulant.
Oui. Oui, donc je suis en fauteuil roulant, je suis en train de l'amyotrophie spinale de type 2. Mm-hmm. Donc, grosso modo, mes muscles ne se développent pas.
Ouais.
Je peux bouger qu'un bras, puis quelques doigts, puis c'est pas mal ça.
Oui. Donc, c'est un peu limitant, mais tu as réussi à le faire. C'est déjà un défi de vivre de cette façon-là, j'imagine?
Oui, c'est un défi, sauf que je me suis adapté, puis j'ai trouvé un moyen de faire quand même beaucoup de choses, si je peux travailler puis faire beaucoup d'activités et voyager.
Ben, on le voit. Alors, pourquoi tu as décidé de faire ce défi là, de traverser la France du nord au sud?
Parce que j'ai commencé à faire des défis depuis 2 ans environ, puis j'ai vraiment repoussé mes limites pour démontrer que souvent, c'est des limites, c'est psychologique plus qu'autre chose. Puis aussi pour faire sensibiliser les gens à l'isolement, des personnes en situation de handicap, parce que il y a beaucoup trop de gens qui doivent rester chez eux.
Ouais.
Puis en fait, dans ces défis-là, j'amasse aussi des fonds à chaque fois.
Ouais.
Dans celui-ci, on a ramassé 28 000 jusqu'à présent.
Pour Défi, là, qui est un organisme qui combat l'isolement justement des personnes en situation de handicap, c'est ça?
Oui, exact.
D'accord. On va y revenir. Alors, pourquoi tu as choisi ce parcours particulier de Mont-Saint-Michel à Marseille?
En fait, on voulait aller plus loin qu'on avait fait l'année dernière.
Ouais.
D'ailleurs, on avait fait 600 km de Montréal à New York.
Mm-hmm.
Puis on cherchait environ le double qu'on voulait traverser un pays.
Ouais.
Puis on s'est dit aussi que la France, ça pourrait être un bon endroit pour peut-être que ça lève là-bas aussi, puis que ce soit dans les médias, qu'on ait des dons en France.
Ouais.
Donc, on a décidé de faire la France. Puis, c'était 1200 kilomètres le parcours qu'on s'était mis.
Alors moi, je m'attendais à ce que tu me dises, c'était pour goûter le bon vin puis les bons fromages français.
C'est sûr que ça faisait partie des plaisirs de ce défi-là. C'était notre récompense quand on arrivait le soir.
Ben, c'était bien mérité. Alors, tu le fais en 21 jours. C'est un objectif que tu t'es fixé ou ça prend, parce que ça prend 21 jours en temps normal?
C'est parce que qu'on savait qu'on pouvait faire 60 km par jour. Donc, on s'est donné comme objectif 21 jours maximum avec un buffer d'une journée. Mais finalement, il est arrivé plein de choses qui fait en sorte que le parcours a un petit peu changé.
Juste, on va en parler là, tout de suite, mais juste avant, parce que le défi aussi, c'est que toi, tu es en fauteuil roulant et donc tu as besoin de personnes qui vont t'aider, là. Comment tu as fait ça?
Donc on était une équipe. J'avais un aide-soignant qui me poussait en rollerblade parce que à pied ou à la course, c'est beaucoup trop long. Donc, Jean-Philippe me poussait en rollerblade. J'avais un autre, William, qui s'occupait de moi. Il y avait Jean-Guy, qui est le père à Jean-Philippe, qui s'occupait de la logistique, transporter les bagages et tout. Puis il y avait Nemo, qui a dû quitter suite à un accident, qui était là, qui était là en charge de prendre les vidéos.
Bon, alors, juste pour comprendre, toi, tu es en fauteuil. C'est un fauteuil assez spécial, hein? C'est un fauteuil qu'on peut pousser.
Oui, ça s'appelle le Cactus.
C'est ça.
C'est une entreprise québécoise. Puis, en fait, c'est un fauteuil roulant pour les gens qui veulent courir et pousser quelqu'un en même temps. Puis, avec ça, ben, c'était beaucoup plus facile d'avoir qu'une meilleure vitesse. Il y a un guidon à l'arrière pour qu'on peut freiner. J'aurais pas pu le faire juste avec un fauteuil manuel, c'est trop dangereux. Donc c'est comme un vélo à trois roues pour personne à mobilité réduite.
Bon, je comprends qu'il y avait des personnes qui faisaient beaucoup d'efforts pour te pousser, mais toi, physiquement, comment ça se passait?
Ça a été assez dur parce que les routes étaient vraiment pas à quoi on s'attendait. C'était souvent du gravier, de la terre, de l'asphalte, vraiment très bosseuse. Donc, moi, les chocs, c'était vraiment dur, surtout pendant 3 semaines. Physiquement, c'était assez intense, surtout que le jour 1, on a eu un
Ben
accident, puis.
justement, oui, c'est ça, j'y arrivais. Parle-moi de cet accident, oui.
En fait, le premier jour après 40 km, on a eu de bonne chance que dans une côte descendante, le fauteuil accélère quand même rapidement. Puis il y a un oreiller qui est tombé. Puis ça le distrait des mots qui me conduisaient. Puis lorsqu'il s'est retourné, il y avait une voiture devant nous. Donc il a un peu paniqué. En fait, la voiture avait arrêté pour nous dire qu'on avait échappé quelque chose. Sauf qu'elle était juste pas arrêtée au bon endroit. Alors on a tourné, puis on est rentré dans le fossé, puis ça a frappé pour moi quand même fort. J'ai eu une commotion, mais ça s'est quand même réglé après quelques jours.
Donc,
Puis on a pu repartir après 3 jours.
tu te sens bien là.
Ouais, je me sens bien, j'ai encore des petits symptômes, mais rien de majeur.
Alors, je vais parler de ce que tu as inscrit sur les réseaux sociaux. Donc, on a parlé d'un accident dès le premier jour. La peur qu'on n'oubliera jamais. Ah, c'est cette peur-là.
Ouais, ben c'est sûr que quand ça arrive tellement vite, puis étant donné qu'on était dans une côte descendante, qu'on avait difficilement le contrôle. Donc, moi et Nemo, on a eu très peur quand c'est arrivé. Mais plus de peur qu'il y a de mal. Finalement, ben, il y a quand même eu des blessures suite à ça, parce que Nemo, lui, s'est cassé le pied. Puis il a dû rentrer chez lui. Donc, il n'a pas pu continuer le voyage avec nous.
Donc, des mots
Malheureusement,
qui te
mais il est
guidaient,
correct.
là. Donc, on a parlé des routes impraticables. Vous avez quand même fait un passage à l'hôpital à la suite de cet accident-là, j'imagine, hein?
Je suis resté 3 jours pour observation pour être sûr que ma tête était correcte suite à l'impact.
Mais
Mais après.
t'as fait une commotion, mais c'est sous contrôle.
Ouais, puis c'est tous les spécialistes de l'hôpital, il me conseillait fortement de recommencer le défi. Il voulait pas que j'abandonne puisque c'était pas grave pour ma santé.
Tu as choisi d'aller en France, puis il faut dire que l'an dernier, c'était les Jeux paralympiques à Paris qui a décidé de donner autant d'importance aux Jeux paralympiques pour les personnes donc avec une déficience physique ou intellectuelle et qui a décidé de mettre de l'avant et de mettre ces personnes-là de l'avant. As-tu senti que l'accueil était chaleureux en France suite à ça? As-tu vu que c'était ça avait changé quelque chose peut-être?
Bien, on n'a pas pensé à Paris, mais disons, niveau accessibilité, c'est quand même bien les commerces, j'ai remarqué qu'il y avait des petites trompes plus qu'à Montréal. Mais au niveau de l'accueil, je trouvais que les gens étaient froids, même peut-être indifférents un peu de notre défi, qu'on n'a pas vraiment eu de don de la France. Quand on a fait Montréal-New York, les gens étaient beaucoup plus curieux de ce qu'on faisait que dans ce défi-là.
Ah bon? Ben ça, c'est à considérer la prochaine fois. Mais là, tu avais un objectif de 50 000 $ pour Défi sans limite. Pourquoi Défi sans limite?
Parce que je suis avec eux, je les aide depuis quelques mois, puis j'ai vu que c'est vraiment une belle organisation. Eux, en fait, ils veulent offrir du support plus en situation de handicap qui ne peuvent pas sortir, faire des activités, ne peuvent pas se payer d'accompagnateurs. Donc, ils organisent des activités, ils offrent des accompagnements. Je trouve ça vraiment cool parce que c'est important pour tout le monde d'avoir du plaisir. Je pense qu'il y en a qui peuvent pas se l'offrir.
Donc, tu as atteint un objectif, tu as atteint à peu près 28 000 $, tu me disais tantôt, de l'objectif. Est-ce que les gens peuvent continuer à faire des dons?
Oui, la page de dons est encore ouverte. Ouais. Le plus simple, c'est d'aller sur mon profil Instagram, François Bernier 89, puis j'ai mis le lien directement en haut pour contribuer.
D'accord. Ta réaction vis-à-vis le montant d'argent accumulé, parce que tu me disais que tu trouvais que les gens n'étaient pas aussi généreux en France, comment tu te sens vis-à-vis ça? Es-tu déçu? Comment tu vois ça?
Je suis quand même content du montant qu'on a ramassé. Ouais. C'est quand même c'est de l'argent significatif pour l'organisation. Ouais. Ceci dit, c'est sûr que je m'attendais à plus de dons de la France, mais aussi peut-être plus de commanditaires. J'ai eu beaucoup de difficultés à aller chercher des commanditaires pour le don, bon, entre autres à cause de la situation économique au Québec et tout.
Ouais.
Donc, ça, c'est pour ça que ça a été difficile de se rendre à 50 000.
Ouais.
Mais écoute, ça continue de monter encore tranquillement.
Bon, on va en parler encore. Les gens auront donc des nouvelles de ça. Écoute, j'ai été, moi, très impressionné de voir que tu as fait ça. Je sais pas, moi, si je l'aurais fait en 21 jours, même en auto, je suis pas très amateur. Mais merci beaucoup, François, puis bonne continuation, puis on te suivra dans ton prochain défi. C'est quoi le prochain défi?
On sait pas encore, mais je vais prendre un petit break de défi. Puis, mais c'est sûr qu'on va faire d'autres. Sauf que ça va être différent.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, François Bernier, qui a traversé la France du nord au sud, de Mont-Saint-Michel à Marseille, pour ramasser de l'argent, pour sensibiliser les gens au défi d'être une personne en situation d'handicap et pour sensibiliser les gens à l'isolement que vivent ces personnes. Merci beaucoup encore.
Bien, merci à toi.
Je vis pour elle jour après jour. Quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me décide après. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci invita.
Elle vivra.
Attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Je vis pour elle.
che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
Je serais perdu sans
elle. Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je la perds.
Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande che amore produce.
Je vis pour elle, je n'ai rien d'autre. Et combien vais-je en rencontrer qui comme moi l'ont écrit sur nos visages. Je ne vis que par elle. Je ne vis que pour elle.
Sopra un palco contro un per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Et la musique et la diselle, elle m'a donné la clé du ciel qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe pas
per lei, la musica.
J'existe pour
vivre pour
elle.
Vivre pour elle est unique.
Elle est toi et moi. La vivre pour elle.
Io vivo.
Andrea Bocelli et Kenji Girac, Je vis pour elle.
Très belle chanson, puis quelle voix Andrea Bocelli, hein, c'est incroyable. Et vous savez qu'Andrea Bocelli vit avec une déficience visuelle depuis son enfance, et ça ne l'a pas empêché de faire une excellente, une grande carrière dans la musique. J'en parlais tout à l'heure avec François Bernier de La Traversée, et oui, effectivement, pour trouver le site, allez sur Canadon. Canadon, vous faites C-A-N-A-D-O-N, et sur le site, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, vous allez trouver la plateforme de dons. Alors, il reste encore 3 jours, il a accumulé 28 320 $ pour sa traversée de la France, et il y a des photos assez extraordinaires, là, on voit le travail accompli. Alors, pour aider Défi sans limite, qui vient en aide aux personnes en situation de handicap pour contrer ce qu'on appelle l'isolement. J'ai le temps de vous parler dans Le Devoir ce matin de l'aide humanitaire à Gaza. Alors, pourra-t-elle mettre fin à la famine? C'est un article de Léo Mercier-Rose. Après avoir bloqué l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza pendant plusieurs mois, Israël a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que son armée permettrait de nouveau l'avenue de vivres et de médicaments sur le territoire aux prises avec de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Est-ce trop tard pour les Gazaouis qui souffrent d'une famine qui semble se généraliser à une majeure partie de la population? Pas nécessairement, mais plusieurs facteurs laissent planer un doute sur l'efficacité de cette nouvelle aide, estiment les experts interrogés par Le Devoir. C'est un pas dans la bonne direction, affirme d'emblée François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire associée à l'Université du Québec à Montréal. Selon ce dernier, il y a un risque important que ça, là, la fin de la famine, prenne beaucoup plus de temps que prévu et qu'il y ait encore des morts inutiles. C'est vraiment une famine politique volontaire et qui, donc, peut se résorber rapidement de manière assez systématique, politique et opérative, dit l'expert en aide humanitaire. Or, pour y parvenir, il faut une distribution qui respecte les standards internationaux, qui soit faite par des opérateurs professionnels et par des organisations qui respectent l'impartialité. avec des organisations comme la Croix-Rouge ou les Nations Unies, cela pourrait être le cas, mais les premières informations provenant de la bande de Gaza indiquent le contraire. Hier, certains camions ont commencé à traverser la frontière depuis l'Égypte, mais la majorité des vivres ont été parachutés sur le territoire par l'armée israélienne. Une pratique qui favorise une distribution plus aléatoire, mais tout en étant plus sécuritaire, mais dans un endroit à haute densité de la population comme Gaza, souligne François Audet. Alors, ce qu'on dit, c'est une coordination impartiale qu'il faut dans les cas de famine aussi aiguë que celle que qu'on observe actuellement à Gaza, les gens n'ont pas seulement besoin d'aliments, mais aussi de bons aliments aux bonnes personnes, parce que les gens qui ont été mal nourris pendant longtemps peuvent avoir, par exemple, des réactions à de la nourriture qui n'est pas appropriée. Alors, la coordination au sol est aussi nécessaire, ce n'est pas parce qu'on parachute de la nourriture qu'elle est bien distribuée et qu'elle sera gérée adéquatement. Poursuit M. Audet en donnant l'exemple d'une personne plus vulnérable qui n'aurait pas l'énergie ou la possibilité d'accéder à la nourriture sans une coordination adéquate. Une pratique semblable s'applique aux livraisons par le sol, qui devraient être distribuées par des organismes qui ont la capacité de pouvoir répondre adéquatement, de cibler les populations les plus vulnérables et le plus rapidement possible afin qu'il y ait ensuite une percolation sur l'ensemble de la population. Explique François Audet. Alors, pour ce dernier, il est important qu'Israël ne coordonne pas l'aide humanitaire sur le terrain. On a vu par le passé que les opérations organisées par Israël étaient complètement inadéquates et ne répondaient pas du tout aux principes humanitaires.
Encore un soir, encore une heure, toujours ce désert dans mon cœur. Je broie du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les mares et les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombre ici nous.
Dernière fleur, l'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nous meilleur. S'abandonner, faire fuir nos peurs. Que nos mémoires effacent ces heures. Passer à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombre et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler, m'envoler. Je veux m'envoler, m'envoler, m'envoler.
Ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombre et c'est nous arrose.
Check et Carla, m'envoler.
Alors, pour ceux qui, comme moi, souffrent de la piètre qualité de l'air que nous avons présentement à Montréal et dans plusieurs régions là, de l'est du pays. Je vous rassure, Environnement Canada dit que ça devrait se dégager, puis d'ici mercredi, là, à moins d'un changement des vents, ce qui peut arriver, on devrait respirer mieux. Alors, j'espère, moi, que demain, cette voix va s'améliorer parce que je trouve ça, moi, je m'entends, je trouve ça désagréable, je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est un peu le problème des gens qui gagnent leur vie avec leur voix. Dès qu'il y a des petits problèmes comme ça, ça joue un peu. Donc, je vous rappelle aussi que, notre ami Dex, Humidex est de retour. Alors, ça va être collant aujourd'hui dans plusieurs régions du pays. Faut se faire à l'idée. Après la pause, on va parler d'un programme, d'un projet de recherche sur la consommation des substances chez les femmes de la diversité sexuelle et de genre qui vient d'être lancé au Canada. Et on va aussi parler de Stéphane Hébert qui a donné un rein à quelqu'un qui va nous parler donc de son projet qu'il a fait pour sensibiliser les gens aux dons d'organes.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Fais mon numéro. D'habitude, je me prends pas la tête. Là, c'est foutu d'avance. On arrête, on commence. Je sais plus ce que je fais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par me faire mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça sera chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot.
Toi tu veux m'abîmer la tête. Tu veux jouer, on commence. Mais les dés je les lance. Je crois que tu me plais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi on se fait la guerre. Je vais finir par le faire. Mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça sera chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Cacher tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot.
Et on écoutait un morceau de Vita et Julien Doré, Viens, on essaie.
Un projet de recherche sur la consommation de substances chez les femmes de la diversité sexuelle et de genre vient d'être lancé au Canada. Pourquoi une telle recherche? Pourquoi les femmes? Et pourquoi particulièrement celle de la diversité sexuelle et de genre? Nous recevons le titulaire de la chaire de recherche du Canada, TRADIS, pour Trajectoire, Diversité et Substances, Jorge Flores Aranda. Bienvenue à Canalem.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Mais c'est un plaisir. Alors, d'abord, qu'est-ce que la chaire de recherche du Canada TRADIS?
Oui, c'est une chaire de recherche qui s'épanche sur la consommation de substances des personnes de la diversité sexuelle, la pluralité des genres, donc les communautés de SLGBTQ+. Et pourquoi? Parce que les personnes de ces communautés-là consomment plus que le reste de la population, pour différentes raisons. Mm-hmm. Parfois pour faire face à du stress qu'on subit à cause de la discrimination, la stigmatisation, même actuellement. Parfois pour rencontrer d'autres personnes, les milieux de socialisation sont souvent des milieux où il y a une présence des différentes substances. Parfois, ça peut être pour la sexualité, pour le plaisir, tout simplement, comme n'importe quelle autre personne.
Ce qu'on appelle le chemsex, donc l'utilisation de substances pendant les rencontres intimes.
Exactement, voilà.
Mm-hmm. Alors, c'est nouveau, ce genre de préoccupation-là?
Ce genre de préoccupation est nouvelle, effectivement, bien que la consommation, la sexualité a toujours existé, effectivement. Et puis, faut rappeler aussi que la consommation en soi, c'est pas un problème. On peut prendre un verre de vin, fumer un joint ou prendre d'autres substances sans que ça cause des problèmes chez les gens. Et il faut donc se pencher sur comment est-ce que, bon, on maintient une consommation qui ne cause pas d'enjeux, qui ne cause pas de problèmes. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres, donc plus de personnes consomment, mais plus de personnes aussi développent des enjeux associés à leur consommation. Et les services qui s'adressent à des personnes consommatrices ne sont pas toujours adaptés non plus à leur réalité. Donc c'est aussi un des mandats de la chaire, donc d'offrir de l'information pour que des services soient plus adaptés aussi à cette population.
Je pense, on va revenir en fin d'entrevue, parce que j'aimerais qu'on parle du projet de recherche. Bien, mais on va y revenir parce que je trouve ça important de ce qu'on vient de mentionner. Parce que justement, ce projet de recherche s'inscrit dans les objectifs de la chaire. C'est quoi ce projet?
C'est un projet, en fait, qui est né d'une préoccupation autant des collaborateurs des milieux communautaires que de personnes étudiantes qui travaillent avec moi. En fait, la chaire des recherches que je dirige, elle se penche sur l'ensemble des personnes de la diversité sexuelle, et un des éléments sur lesquels on avait peu d'informations était sur les femmes en particulier. Et le grand problème aussi dans la recherche, souvent sur les personnes de la diversité sexuelle, c'est qu'on va prendre l'ensemble des personnes, donc l'ensemble des lettres de l'acronyme, mais sans trop s'inquiéter ou sans trop désagréger un peu les informations qui proviennent de chacune des communautés. Et il y a moins d'informations sur les femmes. Récemment, on a fait beaucoup des recherches sur le chemsex et les hommes. On a vu aussi d'ailleurs qu'il y a des personnes trans, des personnes non binaires qui pratiquent le chemsex. Et donc, une des préoccupations était d'avoir davantage d'informations sur la consommation des femmes de manière générale, et plus particulièrement de voir quels sont les liens entre la consommation des femmes de la diversité sexuelle et leur sexualité. Parce que d'un autre côté aussi, la sexualité des femmes est moins étudiée que celle des hommes. Donc c'est pour cette raison qu'on mène cette étude. C'est une étude exploratoire, donc c'est une enquête par questionnaire qu'on vient tout juste de lancer, dans l'idée d'avoir davantage des données qui nous permettent de développer d'autres projets beaucoup plus conséquents et beaucoup plus ciblés, en fait, sur des éléments qu'on espère on va voir ressortir de cette enquête.
Nous sommes deux personnes qui s'identifient hommes en ondes, et on parle d'un sujet qui concerne les femmes. Je veux quand même qu'on le reconnaisse. Mais cela dit, en tant que chercheur et moi en tant que journaliste, on se rend compte que les projets, les études sur quelques domaines que ce soit, les femmes sont rarement incluses. Et c'est un problème, je pense, qui est très important dans la recherche.
Absolument. Il y a souvent moins de femmes qui participent à la recherche. Qu'on pense à des essais cliniques, par exemple, ou à d'autres types de recherches. Et c'est un problème. Un exemple qui me vient en tête, c'est le fait que, notamment dans le cas de VIH, par exemple, il y a eu moins de femmes qui participaient à des recherches, et donc certains médicaments étaient moins bien tolérés par des femmes séropositives, par exemple. Et ça peut se répéter dans d'autres domaines, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de femmes qui participent, ça indique qu'on a moins d'informations sur elles, mais ça indique aussi que les services qu'on peut développer à partir des données issues de la recherche seront moins adaptés pour des femmes. Donc c'est important qu'on puisse inclure davantage des femmes et d'autres groupes aussi.
Et les personnes trans, parce que c'est particulièrement compliqué à cause des prises d'hormones dans certains cas, et ça peut avoir des conséquences.
Absolument. Absolument. Et puis c'est aussi une autre des populations pour lesquelles on veut davantage faire des études à la chaire. Cet automne, on va d'ailleurs aussi déposer un projet sur le chemsex parmi les personnes trans, parce que récemment, on a une des constatation qu'on avait fait dans nos projets était que les personnes trans, les personnes migrantes et les personnes qui étaient âgées de 55, 60 ans et plus vivaient leur consommation de manière différente, avaient des profils de consommation qui étaient différents et donc méritent d'être connus davantage pour qu'on puisse davantage aussi développer des services plus ciblés.
Chaque fois que j'ai une personne qui fait de la recherche à mon micro, le plus difficile lorsqu'on fait des études comme ça, c'est de trouver, de recruter les participantes. Dans ce cas-ci, des participantes. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mises de l'avant?
On a mis plusieurs stratégies. Donc, on est en contact avec des organisations communautaires qui s'adressent à des femmes de la diversité sexuelle. On a, en plus des partenaires, on a aussi des annonces sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux de la chaire Tradis, que ce soit Facebook, Instagram, également LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Et chacun des partenaires communautaires aussi s'est engagé à diffuser l'information. Donc, on a aussi des publicités payantes sur les réseaux sociaux. On espère que ça va rejoindre les personnes concernées.
En tout cas, il y a des personnes qui nous écoutent présentement. Comment peuvent-elles s'inscrire ou participer?
Oui, elles peuvent aller sur le site de la chaire Tradis, donc tradis.ucam.ca, et on aura l'information sur le projet.
Revenons justement à la consommation, puisque c'est ce que vous étudiez. On a établi que la consommation peut être récréative, n'est pas nécessairement problématique pour tout le monde, parce qu'il faut quand même le spécifier que c'est comme l'alcool, c'est comme bien d'autres choses, là.
Absolument. Et puis, j'invite les gens à se poser la question. On prend, pour la plupart d'entre nous, nous prenons de l'alcool. Et ce n'est pas parce qu'on prend un verre de vin ou deux ou même une bouteille à l'occasion, ça ne fait pas de nous des personnes qui avons un enjeu avec la consommation d'alcool. C'est la même chose avec d'autres types de substances. La différence, c'est aussi les stigmatisations qu'on porte à certaines substances. Maintenant, par exemple, le cannabis au Canada est légal, donc il y a moins de stigmatisation aussi envers les personnes qui consomment cette substance. En revanche, il y a plein d'autres substances qui ont un statut interdit et c'est souvent cette interdiction-là qui crée la stigmatisation des préjugés, ce qui fait en sorte que les personnes qui consomment ont honte de dire qu'elles consomment. Cette honte leur empêche parfois d'avoir l'information, leur empêche parfois d'accéder à des services, à du matériel propre. Dans certains cas, lorsque les gens ont besoin d'un matériel propre, que ce soit de paille ou que ce soit de seringues pour des personnes qui consomment par injection. Mais donc oui, c'est important donc, qu'on puisse être consciente et conscient que la consommation en soi, ce n'est pas un problème, qu'elle a existé toujours et qu'elle existera toujours, et que c'est important que les personnes qui décident de consommer puissent le faire sans mettre en danger leur santé.
Oui, donc quand on va à l'hôpital après avoir consommé et qu'on a un accident, même si la consommation n'était pas la cause, si on ne dit pas à une personne « j'ai consommé telle et telle substance », à l'hôpital, ça peut créer des problèmes.
Oui, exactement. On peut vivre de la stigmatisation dans le système de santé. Et c'est pour cette raison, entre autres, que les personnes de la diversité sexuelle et des genres ont plus peur d'avouer leur consommation par crainte de discrimination, parce que on sait, on est déjà une communauté qui a subi la discrimination, qui continue de la subir aussi. Les acquis qu'on a ne sont pas gagnés pour toujours, c'est fragile, et donc on a peur d'être discriminé, on a peur de vivre de la stigmatisation, surtout lorsqu'on parle de certaines substances moins bien vues socialement.
On appelle ça la réduction des méfaits?
On appelle ça la réduction des méfaits, c'est-à-dire de voir à ce que les gens consomment en réduisant tous les risques potentiels sur leur santé et sur leur environnement aussi. Et puis justement, on n'y pense pas, mais une activité très populaire au Québec, l'opération Nez Rouge, que tout le monde aime, c'est une stratégie de réduction des méfaits. Donc, on a différentes stratégies de réduction des méfaits, certaines qui sont plus acceptées que d'autres, comme Opération Nez Rouge, par exemple, et d'autres qui subissent davantage de stigmatisation, comme la distribution de matériel ou les sites d'injection supervisés, alors que ce sont des stratégies de réduction des méfaits, toutes les deux.
Beaucoup de choses à discuter là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à Jorge Flores Aranda, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada Tradis, trajectoire, diversité et substances à l'UQAM. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Quatre ans après avoir fait le don d'un rein à une amie, Stéphane Hébert se lance dans un défi hors du commun, traverser le Canada à vélo de Vancouver à Montréal. Il est parti le 26 mai dernier pour un périple de 4000 km qui se termine aujourd'hui donc au Parc La Fontaine. Et pour en parler, ben, il est là. Bonjour Stéphane Hébert.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, vous-même.
Bien sûr, il faut que ça aille bien.
Alors, tout un défi, comment ça s'est passé? Ça a bien été, ce 4000 km?
4760.
Wow!
Ouais. Puis là, j'ai fait, en plus, avec tous les détours, j'ai fait 5200 km.
Des détours? Non, ils ont des cônes orange là aussi, partout au Canada.
Oui, il y a des cônes orange. Mais les autres, au Canada, sont noirs et oranges.
Donc, à vélo, c'est tout un défi quand on y pense. Même hein, pour les personnes, même les athlètes, c'est un défi. Là, je ne sais pas, est-ce que tu te considères un athlète?
Non, je ne me considère pas comme un athlète, là, mais je suis une personne normale. Mais oui, c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est tout un exploit aussi. Là.
Ben oui, ça, c'est certain. Parlons d'abord du pourquoi de la chose. Est-ce qu'on peut rappeler le don que tu as fait à une amie?
Oui, j'ai fait le don d'un mérin à une de mes amies, Joanne Piamont. Puis c'est ça. Puis là, moi, je faisais le Vancouver-Montréal par rapport que... Il y a des gens qui pensaient que quand on donne un rein, que notre vie est finie, mais je voulais montrer aux gens que ma vie n'est pas finie puis que je vais vous trouver. Je vais faire Vancouver Montréal pour montrer que même avec un rein, on peut faire des foleries comme ça. Là.
Est-ce que Joanne fait vous accompagner ou fait-elle ce genre de folie où elle se garde une petite gêne là, pour garder sa santé?
Ah ben, elle m'a juste suivi comme faux.
Ouais.
Sur Facebook. Puis en même temps, ben, à mon arrivée, elle va être là pour m'accueillir à mon arrivée.
C'est quand même assez inusité, hein, le don d'un don d'organes d'une personne vivante à une personne vivante. C'est difficile. Au niveau de, j'imagine, de la douleur et tout ça, c'est une expérience qui doit être assez difficile.
Oui, mais ça a quand même bien été aussi. Puis pour elle, ça a été super bien parce qu'elle est tombée, elle faisait de la dialyse.
Oui.
Puis c'était comme assez douloureux. Ben, c'est assez pas facile. C'est plus elle était souvent fatiguée après la dialyse.
Ouais.
Ça demande beaucoup d'efforts physiques. Puis là, depuis qu'elle a un nouveau rein, ben, ça, elle a plus bonne dialyse. Fait qu'elle est super en forme. Elle fait plus ses activités. Puis la vie est plus belle, en tout cas, là.
Donc, c'était une randonnée pour démontrer qu'on peut bien vivre après un don d'organes, on peut vivre avec un seul rein, c'est une chose. Mais il y avait aussi, cette sensibilisation-là était là, mais il y avait aussi un objectif financier, d'amasser de l'argent, oui, pour la maison des greffés Lina Cyr.
Oui, je voulais ramasser de l'argent pour la maison des greffés aussi, pour que les autres qui offrent un hébergement à 35 $ logé nourri. Puis pour ceux qui sont en attente d'une greffe, avant greffe, puis après greffe, puis pendant greffe aussi.
Oui.
Ouais. Puis mon périple aussi, c'était pour démontrer aussi aux gens pour le don d'organes, c'est très important dans le Canada. Parce que comme j'ai pu voir en Ontario, le monde ne sont réellement pas totalement au courant. Il y a à peu près 35% des gens qui... Les autres, c'est pas signer le carte, c'est de s'inscrire sur Internet, là.
Oui. Oui, c'est ça. Oui, parce que ici au Québec, je pense qu'on signe notre permis de conduire et ou notre carte d'assurance maladie. Là, je viens de renouveler mon permis de conduire, justement, puis il faut signer en arrière pour le don d'organes. C'est pas tout le monde qui le fait. Puis ça complique les choses quand on. Ouais. Parce que là, on parle de don lorsque la personne est cliniquement morte et on doit décider ce qu'on fait des organes.
Là. C'est ça. Puis ça prend juste une personne pour s'opposer. À s'opposer, puis les dons d'organes, ils prennent pas les dons d'organes.
Oui. Même quand la personne a signé, je pense que ça reste encore compliqué, hein?
Oui, ça reste compliqué pareil. Ça prend juste une personne qui s'oppose, puis ils prennent pas les organes. Fait que c'est de pas juste signer le cap, c'est d'en parler à tout ton entourage, à ta famille, dire que oui, c'est ça que tu veux, que si jamais tu décèdes, ben que le don d'organes, ils se prennent comme pour aider les gens, là.
J'aimerais revenir sur le périple parce que c'est quand même pas rien, là, faire du vélo pendant tout ce temps-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des anecdotes à raconter là, parce que j'imagine des fois le mauvais temps ou quelque chose?
Ah, ben c'est sûr, il y a plein d'anecdotes. on pourrait en parler des heures et des heures. Là,
on a le temps. On peut en parler quelques-unes.
Oui. Question route. En Ontario, la route, il n'y a presque pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Des fois, il n'y a pas d'accotement du tout. Que c'est vraiment dangereux. Que j'ai même eu peur des fois de me faire frapper par les camions.
Ouais.
Puis des places dans le BC, la route était super belle. La vue est vraiment belle avec les montagnes, les ruisseaux, les arbres immenses. C'est comme vraiment beau, là.
Ouais. Même du temps que j'habitais en Alberta, je faisais souvent des randonnées dans les parcs nationaux. C'est absolument éblouissant quand il fait beau. Parce que quand il décide qu'il fait mauvais, moi, je me rappelle qu'en plein mois d'août, il neigeait pendant que je faisais du vélo.
Ah ouais? OK. Ah, puis les pluies, c'est vrai. Quand des fois, il se mettait à pleuvoir, moi, je roule pareil, là.
Ouais. Comment tu faisais? Est-ce que tu avais de l'équipement spécial pour la pluie?
Non, ben j'avais juste mon... comme un poncho, là.
Ouais.
Puis c'est ça, là. J'avais juste un poncho pour... mais tu sais, ça me protégeait comme il faut de la pluie, là.
Qu'est-ce que... tu fais donc une campagne de financement pour... C'est quoi ton objectif pour la maison des greffiers Linacire?
Mon objectif, c'est 30 000 $
Oui.
Mais malheureusement, comme c'est là, j'ai juste ramassé, je pense, c'est 1 300 $ Mais au moins, j'ai essayé de passer le message comme il faut dans le Canada au complet pour le don d'organes. Puis... qui est très important, puis que même si on a juste un rein, ben la vie est pas finie, puis d'encourager, quand j'ai passé dans les hôpitaux, puis de voir des personnes, puis lui demander que votre famille peut vous donner un rein, puis ça les empêche pas de vivre après. Là.
Ouais, c'est, on peut vivre avec un seul rein, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Cela dit, on parle donc du don d'organes vivants. C'est quelque chose qui est assez inusité, mais est-ce qu'on en voit de plus en plus? Est-ce que le fait que toi, tu l'aies fait, ça a encouragé d'autres à le faire?
Oui, c'est ça que j'ai essayé de faire quand j'ai fait mon périple dans le Canada.
Oui.
Pour démontrer que c'est ça, que même si j'avais un rein, ben, regarde, la vie est belle pareil, puis c'est juste de savoir comment prendre soin de soi après. Là.
Alors, ça se termine aujourd'hui au Parc La Fontaine à Montréal. Qu'est-ce qui est prévu?
Comme c'est là, on a vers 1h30, je devrais arriver au Parc La Fontaine.
Ouais.
Puis là, il serait supposé d'avoir les journaux CBC qui seraient supposés d'être là.
Ouais.
Puis la maison des greffiers m'organise une entrée, mais j'arrive au parc là.
Bon, ben écoute, c'était vraiment une belle opportunité de parler à quelqu'un qui a fait un don vivant. C'est que, comme je dis, c'est rare, mais ça existe. Dès qu'on est compatible, hein, ça peut fonctionner. Et aussi de parler de l'importance de signer ses cartes de donneur au Québec et s'inscrire par Internet ailleurs au pays. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Stéphane Hébert.
Ben, je te remercie aussi de m'avoir suivi tout le temps de mon périple.
Ben, c'était un plaisir. Ben, c'était plus mon collègue Yvan Deslauriers qui l'a fait avant, mais c'est pas grave. C'est toute la même station, puis on connaît tout le monde ici.
Merci
beaucoup. C'était très gentil d'avoir participé à l'émission. Donc, Stéphane Hébert, qui a fait un périple en vélo de Vancouver à Montréal pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. Merci beaucoup encore, Stéphane.
Le volcan dans mes veines. J'ai mes problèmes, j'ai fini de les craindre.
Ariane Moffat et son morceau « J'aime mes problèmes ».
Si vous planifiez un voyage au mois d'août, particulièrement vers la mi-août, mais sachez que les agents de bord d'Air Canada vont tenir un vote de grève dès aujourd'hui. C'est dans radiocanada.ca. Plus de 10 000 agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, membres de la section d'Air Canada du syndicat canadien de la fonction publique, tiendront un vote de grève, donc à compter d'aujourd'hui. Le syndicat des agents de bord d'Air Canada n'est pas parvenu à conclure un accord de principe avec le transporteur aérien, malgré plusieurs semaines de conciliation. Le vote débute donc à 14 heures aujourd'hui, va se dérouler jusqu'au 5 août. Le syndicat demande à ses membres de voter en faveur d'une grève et organise des séances d'information par visioconférence afin d'expliquer l'importance de voter oui, selon une publication du comité de négociation sur le site web du syndicat, mise à jour vendredi dernier. Alors, que se passera-t-il si une grève est déclenchée? Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie aérienne Air Canada mentionne que ce genre de vote fait partie du processus normal de négociation et ne signifie pas nécessairement qu'une perturbation se produira. Si une période de déblayage devait avoir lieu, le syndicat devrait publier un préavis de grève de 72 heures et une telle grève pourrait être déclenchée au plus tôt le 19 août. Ce qui veut dire donc qu'Air Canada a déclaré vendredi par votre communiqué qu'elle reste engagée dans le processus de négociation et qu'il y a plusieurs mesures d'atténuation si jamais un déblayage arrive, de pouvoir changer son billet de voyage ou de changer la date de départ ou tout simplement de l'annuler. Ça peut se faire lors de situations comme ça. Alors donc, il faudra suivre les informations de votre compagnie aérienne ou votre agent de voyage. Je vous rappelle donc qu'aujourd'hui, ça va rester chaud et humide. La qualité de l'air devrait s'améliorer d'ici le milieu de la semaine. C'est pas ce que partout au pays, là, cette situation-là. En tout cas, il y aura quand même de la pluie dans la soirée ou en fin de journée, un peu partout au pays. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Samuel Badel qui faisait la mise en onde de l'émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. De retour demain à Canal M.